Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui croient en leur sœur comme personne pour retrouver deux garçons en qui on croit aussi. David Cassé-Lopez, vous nous racontez les origines des montagnes russes.
Ouais, pourquoi c'est des montagnes russes en plus? Qu'est-ce qu'elles sont de russes?
Est-ce qu'en Russie, on appelle ça des montagnes russes?
Non.
Ah voilà.
On appelle ça Amerikanski, je sais pas quoi.
Ah oui, c'est des montagnes américaines. Ouais. Ah, c'est drôle. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux quelle époque. Aujourd'hui, on parle de la civilisation Chaco avec vous, Gavin Clemente Ruiz, et on remonte 12 siècles en arrière pour découvrir Chaco Canyon, un lieu où ont vécu les ancêtres de peuples encore bien présents aujourd'hui. Mais dites-moi, où se situe donc ce Chaco Canyon?
Alors, Stéphane, on vient pas par hasard à Chaco Canyon. C'est au nord-ouest du Nouveau-Mexique, entre Albuquerque et Farmington. Ce site est un peu loin de tout, faut bien le reconnaître. Il n'y a rien à moins de 1h30 de route.
C'était un lieu de vie donc, vers un peu avant l'an 900, vers l'an 850.
Exactement, c'est ça. C'est même le moment de son apogée, jusque vers 1200. Ce site de Chaco Canyon, en fait, il s'étend sur 137 km². Ah oui. Il a été un grand centre de peuplement, un important carrefour économique et même le plus grand centre précolombien au nord du Mexique. Alors, des milliers de personnes vivaient là, on y pratiquait le commerce, il y a des traces de coquillages qui ont été retrouvées, il y a des pierres turquoises aussi et du cacao dans des poteries qu'on a pu retrouver en faisant des fouilles. On a retrouvé aussi des ruines d'habitations et des ensembles un peu plus religieux. Tout a été classé au patrimoine de l'UNESCO.
Et à quoi ressemble l'architecture des lieux, Gavins?
Alors, quand on vient sur place, aujourd'hui, on aperçoit les vestiges de ces grandes maisons en pierre rouge, orange. Alors, c'est très bien ajusté, ça a des formes trapézoïdales, 3-4 étages, reliées entre elles par des routes encore bien visibles. Alors, monter si haut pour ces habitations, c'était assez fort hein, pour l'époque, quand on pense à ce qu'on faisait, par exemple, chez nous. Était-il aidé par des animaux? Était-il aidé par des pierres pour faire rouler tout ça? Mystère, on n'en sait rien. Alors le plan au sol, souvent, ça représente un grand D. Certaines de ces maisons de Chaco Canyon sont pour certaines semi-enterrées, interconnectées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles étaient bâties en suivant des orientations astronomiques, en suivant le soleil et la lune, tout ça au milieu de montagnes sacrées. Alors, les archéologues se demandent d'ailleurs aujourd'hui si ces demeures qu'on peut visiter étaient des lieux d'habitation ou bien juste des lieux d'hébergement au moment des cultes.
Mais les cérémonies de cette civilisation Chaco étaient des cérémonies importantes?
Oui, très importantes. Elles rythmaient même la vie quotidienne de ces peuples indiens. Tout autour de ces maisons, on a retrouvé des hôtels. Là, c'est A-U-T-E-L hein, pour les cultes. Des tumulus, des montagnes sacrées. À Pueblo Benito, qui est le cœur de cette civilisation Chaco, il y a aussi des stèles funéraires avec des traces de plumes de dinde, des carquois de flèches, des flûtes. Oui, un peu comme ça, oui, c'est ça. Il y a aussi des traces de pétroglyphes. Encore une fois, ce mot, ça va devenir le mot de cette chronique. Des dessins, ce sont des dessins qui sont dans la pierre, où on voit des oiseaux ou alors d'autres animaux qui se rapporteraient au clan de ces peuples, mais aussi des kivas.
Alors, moi, je sais ce que c'est une kiva, mais est-ce que vous pouvez le dire pour les autres?
Quel moqueur. La kiva, pour les autres, alors, c'est un lieu de rassemblement pour le culte de ces peuples amérindiens. Alors, là, c'est de forme circulaire, parfois semi-enterrée. Ça fait 40 mètres de diamètre. C'est un lieu de recueillement, en fait, la kiva, en pierre. On y accède par une échelle. Et on rentre à l'intérieur de la kiva. De nombreux symboles sont associés à cette kiva. Par exemple, la sortie de la kiva, où on va ressortir par l'échelle pour retrouver la lumière. Et donc, il faut avoir pas mal d'imagination quand même aujourd'hui hein, pour être sur place. Mais il y a pas mal d'historiens et il y a pas mal de petits livrets qui sont distribués sur place. Il y a des guides aussi hein, qui peuvent vous aider. Alors, ces kivas sont à ciel ouvert aujourd'hui, mais surtout ce territoire des États-Unis. Et tout est particulièrement bien conservé.
Le site n'est plus du tout habité aujourd'hui.
Alors non, aujourd'hui il n'y a plus trop d'habitations, il y a 2-3 maisons autour, mais c'est vraiment c'est beaucoup moins qu'à l'époque. Il a été déserté, notamment en raison du climat, hein, il fait très très chaud, et aussi en raison des tensions entre les peuples. C'est avant tout un site archéologique, hein. On l'étudie, on le visite. N'oubliez pas votre bouteille d'eau quand vous irez sur place, parce qu'il fait très 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 chaud, ça monte parfois à plus de 50. Il fait partie des parcs nationaux américains depuis le 20e siècle. C'est aussi parfois aujourd'hui le lieu de cérémonies de populations d'origine indiennes qui viennent pour invoquer l'esprit de leurs ancêtres qui vivaient là autrefois. Et oui, chaque année, il y a des cérémonies, pas des festivals, mais de la musique, on joue et on essaye d'invoquer l'esprit de ces peuples qui vivaient là déjà sur place vers l'an 1000.
Des cérémonies en plein désert au sud-ouest des États-Unis, au milieu des vestiges archéologiques de la civilisation Chaco. Mais aïeux, quelle époque hein. Merci Gavins pour la découverte de ce lieu archéologique du 9e siècle.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.